Le problème avec les petites phrases qui sont reprises un peu partout, vous savez, c'est qu'à force de les voir, on les garde en mémoire, au point de plus pouvoir écouter la parole de quelqu'un sans penser à ce qu'on a lu ou entendu à son sujet à plusieurs reprises. Ce matin, j'écoutais la radio et j'avais cette petite ritournelle qui revenait comme un refrain que j'ai entendu la semaine dernière et que j'ai vu recopier, commenter, disséquer jusque dans les journaux, à la télé, sur les réseaux sociaux. C'est une phrase du rappeur Fianso sur les candidats de notre campagne présidentielle. J'ai l'impression de voir des rappeurs. Comment voulez-vous, dans ces conditions, vous concentrer dans le 7-9 sur la parole de l'invité? On est perdu. On est moins à l'affût, effectivement, d'un constat que d'un clash, d'une mesure que d'un match, d'une proposition que d'une punchline, c'est-à-dire d'une petite phrase percutante comme un coup de poing qui sera reprise un peu partout et qu'à force de la voir, on la gardera en mémoire. Mais ça suppose quand même un certain talent, comme le dit ce morceau qui s'appelle Rap Game et qui me revient soudain comme un refrain. Ils s'improvisent tous rappeurs, acteurs, producteurs, managers, gangsters, videurs, prêcheurs, médiateurs. Le rap game a trouvé la faille du détecteur. Ils misent tout sur la carrosserie et nous sur le moteur. Wow.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui sait bien ce que c'est que le rap game. On lui doit valider la grande série sur le rap en France qui n'en finit pas de battre des records, mais aussi des comédies à succès comme les Kaira, Pattaya ou Taxi 5. Il est aussi acteur et on le retrouvera dès vendredi sur Netflix dans Sans répit de Régis Blondeau. C'est un film d'action doublé d'un thriller dans lequel il joue un flic magouilleur à souhait qui se retrouve empêtré dans un terrible engrenage. Bonjour Franck Gastambide.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors avant toute chose, se peut-il qu'il y ait du rap partout? Ou alors c'est moi?
En tout cas, il y en a ce matin dans votre bouche, Augustin, et c'était très bien.
C'était rough, hein.
Oui,
c'était rough. Mais en termes de péripéties, parce que vous, on peut vous poser la question, en termes d'action, de dramaturgie, qu'est-ce qui fait l'intérêt du rap game pour vous?
Oh, moi, c'était, et c'est pour ça que j'ai voulu faire valider, au-delà du fait que c'est la musique que j'écoute depuis toujours, et qui évolue, et qui est d'abord une musique qui, vous le savez, était une musique de revendication, et puis qui maintenant est la première musique de France. J'aime ce qu'elle véhicule. Et quand j'ai voulu faire valider, l'idée était de se dire tout simplement tous les pays du monde ont des grandes séries qui parlent de cette musique urbaine. Et puis chez nous, on n'en avait pas. Donc je me suis lancé là-dedans.
Alors, dans ce que disait Fianso au micro de la matinale, et c'était intéressant, il y avait aussi une façon de parler, une façon de s'affronter, une façon de se présenter. Quels sont ces codes, là, justement, Franck Gastambide?
Je dirais que c'est s'affirmer, affirmer d'où on vient, affirmer ce qu'on a à dire avec notre manière. Et j'ai d'ailleurs trouvé ça parfaitement juste que Fianso a raconté chez vous à ce sujet-là.
Est-ce que vous diriez que les codes du rap game s'étendent désormais au-delà de l'univers du rap, partout en France, dans toutes les sphères, y compris les sphères politiques, justement?
Oui, parce que quand on parle du rap, on parle d'une culture, on parle de la culture hip-hop qui mêle des tas de choses. Et puis vous le savez, elle est aussi récupérée en politique, cette culture, puisqu'on a besoin de rassembler, et la culture hip-hop rassemble.
Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans ce milieu qui avant votre série n'avait pas vraiment été raconté, en tout cas pas en France? J'ai l'impression que c'est l'entraide. Au contraire, ouais.
Il y a l'entraide, il y a évidemment la musique au départ qui est une musique faite par des gens qui n'ont pas les moyens de faire de la musique. C'est-à-dire qu'on fait du rap avec, en allant, j'allais dire presque voler la musique des autres, ce qu'on appelle des sampleurs en fait. Ouais. Et puis là-dessus, on doit créer, inventer, raconter nos vies, mais c'est aussi pour ça que c'est la musique qui arrive du ghetto, qui arrive de nulle part. C'est que il y a pas besoin d'avoir fait de solfège, il y a pas besoin de savoir faire un instrument de musique. Il y a besoin d'avoir des idées et d'avoir un flow, comme on dit, pour raconter ces idées.
Alors c'est un milieu que vous connaissez très bien, Franck Gastambide. Vous le fréquentez depuis une vingtaine d'années. Comment est-ce que vous êtes parvenu à poser les pieds dans cet univers? Vous vous souvenez?
Oui, c'est la musique que j'écoute depuis toujours. Et puis quand je m'attaque à valider, je sais qu'il va falloir prouver sa légitimité,
sa crédibilité.
c'est un énorme débat dans ce milieu-là, et ma crédibilité, je l'ai puisée dans le fait que je participe à des clips de rap depuis toujours. Et alors, paradoxalement, j'ai commencé à participer à des clips de rap parce que j'étais dresseur d'animaux.
Oui.
Et parce que c'est ça ma backstory.
Vous avez rencontré Mathieu Kassovitz sur le tournage des Rivières pourpres. C'est ça qui vous a présenté le collectif Courtragemé.
C'est ça. J'avais 20 ans, j'étais passionné d'animaux, de chiens, en échec scolaire total. Je trouve dans les animaux une espèce de réconfort, et je me passionne là-dedans, ce qui est ce qui est le cas de tous les gens qui ont des problèmes scolaires. Il faut les encourager à ce qu'ils trouvent une passion. La mienne, c'était les animaux.
Mais cette rencontre avec Kassovitz, elle va tout changer, en fait. Elle va vous ouvrir d'autres horizons.
Ouais, des horizons auxquels j'aurais pas pu vraiment penser. Je débarque de ma banlieue, j'arrive sur un plateau de cinéma, et je trouve ça incroyable, ces caméras, ces camions, ces acteurs, ces maquilleurs. Et je me dis, moi, le petit mec de Melun qui dresse des pitbulls, est-ce que je vais pouvoir toucher à ça à un moment? Alors ça a pris du temps, c'est certainement beaucoup plus de temps que si j'étais sur un autre chemin de vie, mais j'en suis arrivé là.
C'est intéressant, le rêve de cinéma, il apparaît à ce moment-là, ou vous l'aviez déjà en vous auparavant quand vous étiez ado à Melun justement, Franck?
Non, il n'était pas accessible pour le mec de banlieue que j'étais. Le cinéma, c'était quelque chose de pas palpable, quelque chose qui se passe dans une salle de cinéma. Je me rappelle avoir dit à mes potes, quand j'ai commencé à travailler dans le cinéma, et ils me disaient, mais dans lequel? Celui de Melun ou celui du Mets-sur-Seine? Travailler dans le cinéma, ça veut dire travailler dans une salle de cinéma. Donc c'était pas accessible pour moi tout ça, et puis c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on évidemment, cette phrase est un peu balourde, mais croire en ses rêves. Et quand je suis arrivé sur ces plateaux de cinéma, évidemment que je m'envisageais pas acteur ou réalisateur, mais le simple fait de pouvoir travailler dans un endroit comme celui-là déjà était un rêve absolu pour moi.
Et comment vous en êtes venu à convaincre peut-être Mathieu Kassovitz de vous emmener ailleurs justement? Quelle était la nature de la conversation?
Eh bien, Mathieu est lui aussi passionné d'animaux. J'avais tout simplement décidé de saisir ma chance et de l'impressionner. Donc j'ai travaillé avec les chiens le mieux que je pouvais. Et puis surtout, pour la petite histoire, je connaissais pas les techniques de cinéma, les chants contre chants, etc. Donc j'avais travaillé mes animaux comme si c'était un énorme plan séquence dans lequel on n'allait pas pouvoir m'aider. Donc les chiens étaient parfaitement dressés et suffisamment bien pour qu'Assolite soit impressionné et qu'on devienne pote.
Quel animal est-ce que c'est, le chien, pour vous?
Qu'est-ce qu'il est, ouais, pour moi? Il est mon sauveur. Ouais, il est mon sauveur. Si j'ai pas les chiens dans ma vie, je n'accède pas au cinéma et je n'ai pas la vie que j'ai aujourd'hui.
Et quel animal est-ce que vous êtes, vous, Franck Gastonvide?
C'est difficile comme question. Alors ça, c'est une question, je voudrais pas me tromper. J'ai travaillé avec beaucoup d'animaux dans ma vie. J'ai travaillé avec des grands primates.
Avec des ours aussi.
Avec des ours aussi qui sont des animaux. Alors je dirais l'ours.
Ah voilà. Bon?
Oui, parce que c'est un dangereux, fragile, l'ours.
Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment dans le métier de l'acteur. En quoi diriez-vous que l'acteur, dans la manière qu'il a de suivre son instinct, il doit toujours avoir quelque chose d'animal, justement?
Alors, dans mon cas, qui n'a pas eu la chance de faire une école de cinéma, qui n'a pas pris de cours d'acteur, il me reste que l'instinct. C'est comme ça que je fais l'acteur, c'est comme ça que je décide aussi sur mes choix de metteur en scène. Donc je dois être instinctif, c'est comme ça que j'étais quand j'étais dresseur d'animaux aussi, c'est-à-dire que quand on dresse des animaux, que ça soit un ours ou un chien ou un orang-outan, eh bien il faut être en connexion avec lui, faut se faire confiance, faut faire appel à son instinct, à son ressenti, et c'est là-dedans que je puise quand je fais l'acteur.
Celle qui est animale dans cette émission, vous la connaissez Franck, c'est la culture et son actualité souvent bestiale même. Que se passe-t-il donc aujourd'hui mardi 22 février? Donda, Donda pas, c'est aujourd'hui que doit être révélé Donda 2, le nouvel album de Kanye West. Toutefois, le rappeur a déclaré que son opus ne serait pas distribué sur les plateformes musicales en ligne, mais uniquement via un stem player, une petite enceinte vendue $200 dans le monde entier. Kanye explique qu'il refuse désormais que sa musique soit contrôlée par un système oppressif qui ne laisse aux artistes que 12% de l'argent que gagne l'industrie. C'est dit. Le syndicat français de la critique de cinéma a dévoilé hier ses récompenses 2021. Résultat, meilleur film français au puissant Onoda d'Arthur Harari et meilleur film étranger à Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi. Côté premier film, ce 76e palmarès a vu le sacre de Sous le ciel d'Alice de Chloé Maslow et de Freda de la cinéaste haïtienne Jessica Jeneus.
Get out of art school, decide not to be a career artist, go to museums instead and look at great art of in museums.
Et enfin, l'artiste et théoricien américain Dan Graham est mort à New York. Il avait 79 ans, figure de l'art conceptuel, architecte d'une œuvre tout en jeu de miroir et transparence. Il n'avait eu de cesse de décloisonner l'espace de l'art et de révolutionner la place du spectateur. Créateur de pavillons de verre, il avait exposé à la Biennale de Venise et au Centre Pompidou, encore signé la scénographie d'un défilé Céline en 2017. Salut. Et le comédien et réalisateur Franck Gastonvide, invité de Boomerang ce matin pour ce rôle de lieutenant dans Sans Répit, variation sur le film de Kim Jong-un, Hard Day, en ligne vendredi sur Netflix. Alors c'est un film d'action, je me suis demandé pour vous, ça tient à quoi un bon film d'action, qui est un genre qu'on interroge assez peu dans cette émission? Sur quoi ça repose?
sur les émotions qu'il va nous procurer. Moi, c'est pour ça que je fais du cinéma. Quand je fais des comédies, ce qui compte, c'est d'essayer de faire rire les gens, de provoquer des émotions. Et puis là, c'est pareil, c'est un thriller d'action.
Donc c'est un frisson.
Ouais, c'est un frisson. Et puis alors, la particularité de ce film, c'est quand même qu'il nous chope à la deuxième minute et qu'a priori, il nous lâche à la fin. Et on profite surtout du scénario original coréen qui est un chef-d'œuvre.
Avec quel film d'action est-ce que vous avez grandi, vous, justement?
Bon, je suis obligé de citer, même si c'est peut-être pas un film d'action, Rocky, qui est vraiment un film, une saga sur lequel je ne peux pas avoir de discussion avec des gens qui n'aiment pas.
Non, mais c'est-à-dire qu'on a le même âge, donc là c'est aussi un truc de génération,
oui.
Je pense. Ouais.
Non, mais c'est un chef-d'œuvre, mais évidemment que L'Arme fatale, que Die Hard, tout, j'ai grandi avec tout ça. J'ai grandi à Melun, j'ai le souvenir d'aller prendre la voiture et de vivre des grands moments devant ces films hollywoodiens.
Quelles images, justement, de cinéma vous reviennent immédiatement quand vous pensez à l'ado que vous étiez? Une image, une scène, peut-être dans Rocky, justement.
Évidemment, Rocky, les entraînements de Rocky, les musiques de Rocky, mais je dois aussi citer Taxi, parce que c'est pour ça que j'ai voulu faire Taxi 5 et que j'ai dépoussé la porte de Luc Besson. C'est parce que à un moment, je me suis dit que c'était accessible pour moi, après le succès des Kaira et de Pattaya, de me dire que peut-être j'avais le droit d'avoir de l'ambition et peut-être je pouvais aller pousser la porte de Luc Besson.
D'autant que c'était un film qui parlait de ça aussi, Taxi.
Ça mélangeait plein de choses pour moi. Ma culture de banlieusard, c'est l'action, les voitures, le rap qui était présent, c'était quelque chose que... C'est pour toutes ces raisons que j'avais envie de faire Taxi.
C'est intéressant parce que le film d'action, c'est un genre très codifié, Franck Gastambide, y compris en ce qui concerne la conception de la masculinité. À partir de quel modèle masculin est-ce que vous êtes construit, vous? Quel code est-ce que vous avez cherché à reproduire, consciemment ou malgré vous?
Ben je crois encore que je dois citer Rocky et Stallone, et particulièrement Rocky, parce que Rocky, il y a sa sensibilité, il y a évidemment... son engagement, et puis il y a Adrian, il y a son rapport à sa femme, sa femme tellement intelligente.
C'est un cri, quoi.
C'est un cri, mais c'est un cri d'amour, et puis Adrian, c'est la femme parfaite.
Rocky en VF, on est d'accord.
Rocky en VF.
Bah, évidemment. Alors, ça n'est pas la même expérience.
Pas du tout, et je l'ai vu récemment en VO.
Aucun intérêt.
Aucun. Non, mais c'est incroyable, c'est vraiment une des rares sagas où on se dit qu'il faut le regarder en français.
Mais jouer avec vos propres codes dans vos propres films, ces codes-là par exemple, dans quelle mesure c'est quelque chose qui vous intéresse tout le temps, de s'amuser aussi avec ces codes avec lesquels vous avez grandi?
Alors s'amuser avec les codes et s'autoriser à avoir de l'autodérision sur nous-mêmes. Vous savez qu'on est dans une période où il y a des tas de banlieutologues qui nous expliquent comment on doit penser quand on vient de banlieue, comment on doit se comporter avec sa communauté. Et moi, je revendique d'avoir toujours eu l'envie d'avoir de l'autodérision sur ce que j'étais, le mec de banlieue que je suis, dyslexique, qui faisait des fautes de français. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça, qu'on continue à s'autoriser à avoir de l'autodérision sur nous.
Oui, je pense tout de suite au Kaira, adapté de la mini-série du même nom, dans laquelle vous poussez jusqu'à la caricature, hein, les codes associés à la banlieue, avec une autodérision justement féroce. L'idée de départ, c'était ça.
Complètement ça, s'autoriser à rire de son nez, c'est important, je crois.
Quelle force est-ce que ça vous donne, l'autodérision?
Ça me permet d'assumer un peu plus mes complexes. S'autoriser à se moquer de soi, c'est éviter que les autres le fassent à notre place.
Garder les pieds sur terre aussi, je me disais.
Peut-être, mais j'ai la chance d'être entouré de gens qui sont tous plus talentueux que moi, plus connus que moi, et qui dans mes conseillers, il y a toujours eu Omar Sy, il y a toujours eu Ramzy, et ça permet de rester à sa place, de se dire que de toute façon, il y a des gens tellement plus talentueux que moi.
Qu'est-ce qui vous fait douter, tout le temps?
Bon, vous connaissez un peu mon parcours. J'ai été en échec scolaire toute ma vie, incapable d'avoir le moindre diplôme, et ça, on se le traîne toute sa vie, donc... Je navigue dans ma vie et dans ma carrière avec mon manque de confiance en moi, avec ce syndrome de l'imposteur.
Comment ça se manifeste?
Oh bah, par des doutes permanents, mais ces doutes finalement, ils me font bosser, quoi.
Il y a le regard des autres aussi.
Ah ouais, ça c'est un gros problème.
Pourquoi?
Mais parce que bien souvent, et j'essaye de lutter contre ça, et je sais qu'on est beaucoup dans notre métier à avoir ce problème, c'est qu'on est souvent beaucoup plus touché par la critique que le compliment. Et pourtant, on en reçoit beaucoup plus des compliments. Et j'essaye vraiment de lutter contre ça. Évidemment, on parle beaucoup des réseaux sociaux et du cyberharcèlement, dont je suis, moi, très peu victime. Mais je me suis dit, comment se fait-il, Franck, que quand tu reçois 100 messages de gens qui te trouvent super, t'as envie de répondre qu'à celui qui te dit que t'es un connard, parce que t'as envie qu'on t'aime et t'as envie qu'ils comprennent qu'ils se trompent. Et c'est un travail, ça, d'accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, d'accepter que les critiques, parfois, sont liées à des frustrations personnelles de l'autre. C'est un vrai travail, tout ça, hein, qu'il faut faire.
Mais peut-être qu'on fait ce métier justement pour être aimé de tout le monde,
ouais.
Pour être regardé tout le temps.
Sauf que c'est impossible.
En fait, ce que vous nous dites, c'est que c'est pas grave de pas plaire à tout le monde.
Ah oui, il faut l'accepter, et puis surtout, il faut être humble. Comment ça? C'est impossible de plaire à tout le monde. Qui je suis pour plaire à tout le monde, moi? Il faut arriver à être dans cet état d'esprit.
Vous avez réussi à en faire un catalyseur de création, justement, un moteur de ces doutes-là?
Oui, et la seule chose, c'est de faire attention à ne pas essayer, justement, de plaire à tout prix. Et de se restreindre, ça c'est un vrai problème, parce que encore une fois je parlais de cette mouvance maintenant où quand on fait une comédie on est parfois très très critiqué, on parle des clichés en boucle, et c'est dangereux parce que c'est ce qui fait qu'on finit par se censurer, et c'est quand on se censure qu'on se stigmatise, pour moi.
On va parler ensemble de doutes, de codes, de regards juste après. Voilà, classe ultime, James Brown, All the Way, avec le Di Felice Trio sur l'album Getting Down to It. C'était en 69. Vous êtes sur France Inter avec Franck Gastambide. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
When somebody loves you, it's no good unless they love you. All the way. Happy to be near when someone cheers. All the way. Taller than the tallest tree. That's how it's got to be. Deeper than the deep blue sea. That's how deep it goes. If it's real, when somebody needs you, it's no good unless they need you.
Inter. Boomerang. Augustin Trapenard.
En fait, on est quelque part entre le berger de haute montagne, vous savez, qui sait mener son troupeau en lieu sûr, et le coach. Coach Christophe, pour ne pas le citer, c'est mon coach. Le crâne nu et lisse comme un œuf, la barbe douce et taillée de près, le sourire encourageant, le mollet petite foulée, l'épaule pompe diamant. Tout de suite, on a confiance, tout en beige et blanc. Ce matin, le comédien et réalisateur Franck Gastambide, invité de Boomerang pour Sans Répit, vendredi sur Netflix. C'est l'histoire, je le disais, d'un policier qui trempe dans des petites magouilles et qui un soir renverse un homme. homme dans la nuit, première minute du film. Et là, suite à une mauvaise décision, s'enclenche un engrenage infernal. Et moi, ça m'a interrogé, je me suis demandé pour vous, qu'est-ce que c'est une bonne décision? Parce que vous avez dû en prendre des décisions dans votre vie.
Alors ça, c'est une grande question. La bonne décision est celle qui nous amène à des grandes choses, je dirais. Ou celle plutôt qui va nous éviter des problèmes. J'ai l'impression que c'est ça.
C'est intéressant. Pour quelle raison, à votre avis, la mauvaise décision semble souvent la plus facile, la plus tentante? La meilleure à court terme, en fait.
Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, on en a tous pris, hein, ça c'est sûr.
C'est vrai?
Ah oui, je crois.
Dans votre parcours, quelles sont les mauvaises décisions que vous avez su éviter?
Alors, je me rappelle que, après un film que j'ai fait qui s'appelle Toute première fois, que j'avais beaucoup aimé, j'avais le choix de devenir un acteur un petit peu chic. oui, c'est vrai. Ou alors de rester dans
Quelle
ce que
horreur.
J'aimais de populaire. Non, mais c'est un choix. C'est-à-dire que je venais de faire ce film que j'adore d'ailleurs avec Pio Marmaille et Camille Cotin.
Oui.
Et je sais qu'à ce moment-là...
C'est un film de Noémie Saglio.
Exactement. Mmh. Et j'ai vraiment aimé faire ce film et qui me montrait différemment, etc. Et puis, après ça, bah, tu as le choix de devenir cet acteur qui va tourner avec plein de gens très chics du cinéma français. Ou alors, bah, de retourner à faire les films populaires que j'aimais, et comme Pattaya ou Taxi. Et je sais que c'est un choix que je fais à ce moment-là. Et donc, c'est moins chic, mais ça me correspondait plus.
Ça veut dire qu'on vous a dit que c'était peut-être une mauvaise décision au départ?
Non. En tout cas, c'était clairement un virage à prendre. Voilà. Est-ce que tu veux rester Gaston Bide, le mec de banlieue qui fait des films un peu de banlieue? Ou est-ce que tu veux rentrer dans la grande famille et faire des films avec des gens chics?
Et dans votre jeunesse, vous avez échappé à des mauvaises décisions, justement, vous auriez pu prendre?
Oui, le fait d'avoir été en échec scolaire toute ma vie a évidemment provoqué des problèmes familiaux et qui font qu'à un moment, on est tenté par l'appel de la rue. Et oui, évidemment, je me rappelle très bien de ces moments où j'aurais pu faire de graves mauvais choix.
Comment vous y avez échappé?
Grâce aux animaux. Parce que c'était la passion de ma vie et que pour une fois, je me trouvais bon et compétent dans quelque chose. C'était d'éduquer les animaux qui était la passion de ma vie.
Mais ça vient d'où, ça?
Ça vient d'un manque affectif. J'ai eu le temps de réfléchir à tout ça. Je le sais maintenant que ça venait d'un manque affectif voilà, les animaux ont clairement sauvé ma vie. Ça paraît un peu cliché, mais c'est la réalité.
Qu'est-ce que vous avez compris à leur contact?
Qu'on pouvait m'aimer.
Oh, c'est fou, c'est fort, c'est lourd.
Ouais, mais c'est sans misérabilisme et sans reproche à qui que ce soit. Je sais que j'ai été une déception pour mes parents et ma famille d'être en échec scolaire. Ça doit être tellement mieux quand on a des enfants que j'ai pas encore, de se dire mon fils il est premier de la classe, mon fils il a des super diplômes. Moi j'étais dyslexique, dyspraxie et j'étais incapable d'avoir un diplôme, donc j'étais incapable de rendre fiers mes parents. En revanche, je voyais dans les animaux. Oui, de l'amour et de la tendresse, et ça m'a sauvé.
Vous en voulez, les enfants, vous?
Ouais, il faut que j'y pense. Hein.
On parlait de décision, devenir comédien, ça a été une décision, ça aussi, à un moment donné?
Alors, j'ai jamais osé rêver être comédien, comme j'ai jamais osé rêver de la vie que j'ai maintenant. Sauf que pour être comédien, faut avoir de l'assurance, faut avoir une envie de se montrer, et tout ça, je l'avais pas. Sauf que quand j'ai commencé à vouloir tourner mes petits sketchs, bah personne voulait tourner dedans, donc j'ai dû m'y coller, et je me rappelle très bien des discussions que j'avais avec les gens de Canal+ à l'époque. Et
c'est pour les Carrières, hein, la mini-série.
Exactement. Et je m'étais dit, bah là, on fabrique des petits pilotes ensemble, et puis ensuite on trouvera des vrais comédiens. Et puis les gens de chez Canal+, Ariel Saraco notamment, m'a dit, mais non, c'est très bien comme ça, il faut que tu le fasses toi. Et j'ai dû m'improviser à tous les postes, puisque je n'ai eu aucune formation pour cadrer, réaliser, monter, jouer. Je me suis improvisé.
Alors petit à petit, c'est devenu un métier, à ouais. Force d'improvisation. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez chercher chez un personnage, Franck Gaston Bide?
J'essaye de procurer des émotions. J'essaye de profiter de la chance que j'ai que des metteurs en scène, des producteurs, des plateformes comme Netflix aient envie de me confier un rôle principal. Et puis j'essaye d'aller chercher ce que je suis, ce que j'ai en moi pour procurer ces émotions.
Vous y prenez du plaisir?
Oui, je dois admettre que c'est un plaisir différent quand je fais l'acteur par rapport à être metteur en scène, parce que quand j'écris un film, que je réfléchis à des scènes, et puis qu'un an après je suis avec 200 personnes en train de tourner ce que j'ai imaginé dans ma tête, c'est extrêmement jouissif. Mais c'est une chance incroyable qu'on me propose de jouer des films et d'interpréter des rôles que j'aurais pas été capable d'écrire ou d'inventer, comme c'est le cas pour Sans Répit.
Et des personnages qui parlent aussi, des personnages qui parlent bien. Évidemment, vous me voyez venir, dans quelle mesure diriez-vous que ça a peut-être contribué, faire l'acteur, à vous réconcilier avec les mots?
Ça m'a forcément réconcilié avec les mots, mais pour ça, il fallait que ça me réconcilie avec moi-même. Moi-même qui me dis, bon, ben, mec, tu as des dysfonctionnements dans ta tête qui t'empêchent d'avoir des diplômes, qui t'empêchent de montrer aux gens que tu es intelligent via les diplômes. Et il va falloir le montrer différemment et ça va être avec la manière de parler.
Voilà. C'est intéressant quand même ce rapport aux mots, Franck. C'est quelque chose dont vous ne parlez pas depuis très longtemps, votre dyslexie. Et qu'est-ce qu'il a fallu pour que vous sautiez le pas, que vous décidiez à l'évoquer publiquement?
Alors j'ai
fait de façon éloquente, hein, parce que ça parle beaucoup.
Oui, et je m'en suis rendu compte, et maintenant que je me rends compte que ça touche beaucoup de gens, j'ai décidé d'en parler. Mais c'est vrai que on parle rarement de ce qui nous complexe le plus. Et finalement, c'était une thérapie pour moi d'en parler, et surtout c'est une thérapie de voir qu'on est très nombreux. Et puis ça m'a permis de me dire, j'aurais aimé moi avoir un mec à la télé qui m'explique que je suis pas un imbécile parce que j'ai pas de diplôme.
Parce que quand est-ce que vous avez compris que vous aviez ce que vous n'hésitez pas à qualifier de handicap?
Très tardivement, je dirais même, alors ça va paraître vieux, hein, mais avec l'arrivée d'Internet qui est arrivé un peu plus tard que les autres à Melun.
Vous voulez parler des Internet?
Oui.
L'arrivée des Internet.
L'arrivée des Internet. Et où je surfe, et c'était très long à l'époque de surfer, et où je me rends compte que eh bien, il y a quelque chose qui s'appelle la dyslexie, et puis ensuite il y a la dysphasie, et puis il y a être multidys, et je me rends compte que, alors je ne suis pas un imbécile, alors je ne suis pas un feignant, je suis juste quelqu'un qui a un problème qu'on ne m'avait jamais expliqué, et encore une fois, j'en veux à personne, mais il a fallu que je me construise comme ça, que je comprenne que j'avais ce problème et que ce problème a bouleversé toute ma vie.
Mais ça veut dire, à vous entendre, que la dyslexie, ça a aussi fait de vous un autodidacte en tout, à tout point de vue.
Exactement. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai appelé ma société de production qui s'appelle Autodidacte, avec une faute d'orthographe, avec un K, parce que c'est ce qui me représentait le plus. Je suis autodidacte.
Le K ?
Non, la faute d'orthographe, parce que malheureusement, je continue à en faire beaucoup, sauf que j'ai décidé d'assumer ça, c'est-à-dire que c'est comme mes difficultés avec les langues étrangères, je le dis tout de suite, voilà, je suis dyslexique, c'est un peu plus long pour moi parfois, pour certaines choses, et puis à l'inverse, et c'est ça qui est fabuleux, il y a des tas de choses qui vont beaucoup plus vite. Alors, je vais avoir des difficultés pour des choses parfois un peu ridicules, comme des jeux de cartes par exemple, mais en revanche, dans une room d'auteur, quand je suis en train d'écrire une série, bah, je me rends compte que mon cerveau va un peu plus vite, voilà.
Ça fait plus de 10 ans que vous faites du cinéma, Franck Gastambide. En fin de compte, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez l'impression de continuer à apprendre ?
Apprendre à m'aimer, apprendre à me supporter, apprendre à accepter que peut-être j'ai un peu de compétence pour faire ce métier. Mais ça prend du temps, ça.
Merci infiniment.
Avec grand plaisir.
D'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Sans Répit, de Régis Blondeau, avec Simon Abkarian, Tracy Gotoas, Michael Abitboul, Jemina West, notamment sort vendredi, et ça marche. Ça marche évidemment très très bien. Bonjour Ali Rebehi.
Bonjour.
Alors je vous interdis de savonner ce matin, parce que je vous ai écouté hier.
Mais oui, vous avez eu un petit SMS très sympathique.
Ça m'arrive tous les jours.
Avec Thierry Lhermitte. Vous allez bien? Est-ce que vous êtes hypochondriaque, mon cher Augustin?
Tout à fait.
C'est vrai?
De toute façon, vous pouvez prendre la liste de vos émissions, j'y aveuverai tout, moi.
Écoutez, Augustin, appelez le standard, le 01 45 24 7000, pour témoigner de votre hypochondrie.
J'appelle.